6. Jake et ses compagnons atteignirent l'embranchement du chemin rapidement et sans encombre. Jake avait gardé deux objets, et lorsqu'ils arrivèrent à la fourche, il lança un hochet cassé vers la Gloria et le bracelet tissé d'une petite fille en direction de la plume rouge. « À vous de choisir, » pensa-t-il. « Et quel que soit votre choix, allez au diable !» Lorsqu'il se retourna, il constata que les jumeaux Tavery repartaient déjà dans l'autre sens. Benny l'attendait, le visage pâle et les yeux brillants. Jake lui fit un signe de tête et se força à lui rendre son sourire. « Allons-y !» Ils entendirent alors Roland siffler, et les jumeaux se mirent soudain à courir, malgré les éboulis et les cailloux qui jonchaient le chemin. Ils se tenaient toujours la main et serpentaient entre les obstacles qu'ils ne pouvaient enjamber.
« Hé, ne courez pas !»
cria Jake. Il a dit de ne pas courir et de regarder où on mettait les pieds. C'est alors que Frank Tavery mit le pied dans un trou. Jake entendit distinctement le craquement sec que fit sa cheville en se cassant, et il sut en voyant l'horrible rictus sur le visage de Benny que lui aussi. Puis Frank poussa un gémissement déchirant et fut projeté sur le côté. Francine tendit les bras pour l'attraper et posa la main sur le haut de son bras, mais le garçon était trop lourd. Il retomba comme une guillotine. Le bruit sourd que fit sa tête en allant cogner contre l'affleurement de granit à côté de lui résonna bien plus fort encore que la fracture de sa cheville. Le sang jaillit immédiatement de sa blessure au cuir chevelu, miroitant dans la lumière du matin.
« Problème, » pensa Jake. « Et en plein milieu de la route. »
Benny avait un air stupéfait et les joues couleur de fromage blanc. Francine s'était agenouillée à côté de son frère, coincée de travers, le pied toujours pris dans le trou. Elle poussait de petits gémissements essoufflés et désespérés. Puis, tout à coup, les gémissements cessèrent. Ses yeux roulèrent de leurs orbites et elle tomba raide évanouie sur son frère jumeau inconscient. « Viens !» lança Jake. Et voyant que Benny restait là, bouche bée, sans bouger, il lui donna un coup de poing dans l'épaule.
« Au nom de ton père !»
C'est ce qui fit bouger Benny. 7. Jake appréhenda tout avec la vision claire et froide d'un pistolero. L'éclaboussure de sang sur le rocher, la touffe de cheveux collés sur la roche, le pied dans le trou, l'écume aux lèvres de Frank Tavery, le gonflement de la poitrine naissante de sa sœur allongée gauchement sur lui. Les loups arrivaient. Ce n'était pas le sifflet de Roland qui le lui disait, mais le Shining. Eddie, pensa-t-il. Eddie veut venir voir ce qui se passe. Jake n'avait jamais essayé d'utiliser le Shining pour envoyer un message. Pourtant, c'est ce qu'il fit.
Reste où tu es. Si on ne peut pas revenir à temps, on essaiera de se cacher quand ils passeront. Mais ne viens pas ici, ne gâche pas tout.
Il n'eut aucun moyen de savoir si le message était passé, mais il savait qu'il n'avait le temps de faire rien d'autre. Pendant ce temps, Benny était quoi? Quel était le mot juste? À Piper, Madame Avery était très à cheval sur le mot juste. Et il lui en vint un. Baragouiner. Benny était en train de baragouiner.
Qu'est-ce qu'on va faire, Jake, par l'homme Jésus? Tous les deux, ils allaient bien, ils couraient, c'est tout, et puis... Et si les loups arrivent, et s'ils arrivent pendant qu'on est encore là, ils voudraient peut-être mieux qu'on les laisse là, qu'est-ce que t'en dis?
On ne les laisse nulle part, répondit Jake.
Il se pencha et attrapa Francine par les épaules. Il la hissa en position assise, surtout pour l'écarter de son frère et que ce dernier pût respirer. Sa tête bascula en arrière, répandant ses cheveux comme de la soie noire, ses paupières papillonnèrent montrant le blanc lisse de ses yeux en dessous. Sans réfléchir, Jake la gifla. Fort.
Oh, 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 oh!
Ses yeux s'ouvrirent, bleus, magnifiques, et choqués.
« Lève-toi !» hurla Jake. « Pousse-toi !»
Combien de temps avait passé ? Comme tout paraissait immobile maintenant que les enfants étaient retournés sur la route. Pas un oiseau ne chantait, pas même un rouillot ne criait. Il attendit que Roland siffle de nouveau. Mais pourquoi l'aurait-il fait ? Ils étaient tout seuls à présent. Francine roula sur le côté, puis se remit debout en chancelant.
« Aidez-le, s'il vous plaît, Sai, je vous en prie. »«
Benny, il faut qu'on lui sorte le pied du trou. » Benny tomba à genoux de l'autre côté du garçon étalé gauchement sur le sol. Il était toujours pâle, mais il serrait les lèvres en une fine ligne que Jake trouva encourageante.
« Prends-le par l'épaule !»
Benny attrapa l'épaule droite de Frank Tavery. Jake saisit la gauche. Leurs regards se croisèrent au-dessus du corps inconscient du garçon. Jake fit un signe de tête.
« Maintenant !»
Ils tirèrent en même temps. Les yeux de Frank Tavery s'ouvrèrent, aussi bleus et aussi magnifiques que ceux de sa sœur, et il poussa un hurlement tellement haut qu'il ne produisit aucun son. Mais son pied ne se dégagea pas. Il était enfoncé trop profond. 8. Une forme gris-vert se dessinait progressivement dans le nuage de poussière, et ils entendaient maintenant le martèlement des sabots sur la croûte de terre. Les trois femmes de la Cala se trouvaient dans la cachette. Seuls Roland, Eddie et Susanna restaient dans le fossé, les hommes debout, Susanna agenouillée, ses cuisses musclées écartées. Ils observaient le décor de l'autre côté de la route et le long du chemin de l'Arroyo. Personne encore sur le sentier.
« J'ai entendu quelque chose, » dit Susanna. « L'un d'eux a dû se blesser. »«
Rien à foutre, Roland. Je vais les chercher, » lança Eddie.
« Est-ce que Jake veut ou est-ce toi qui veux ?» demanda Roland.
Eddie rougit. Il avait entendu la voix de Jake dans sa tête. Pas les mots exacts, mais le sens de son message. Et il se doutait que Roland aussi.
« Il y a 100 gosses là-bas et seulement 4 en face, » dit Roland. « Remets-toi à couvert, Eddie. Toi aussi, Susanna. »«
Et toi ?» demanda Eddie.
Roland inspira profondément, puis poussa un profond soupir. « Je t'aiderai si je peux. »«
Tu ne vas pas le chercher ? C'est ça ?»
Eddie contemplait Roland avec une incrédulité croissante.
« Tu n'y vas vraiment pas ?»
Roland jeta un regard vers le nuage de poussière et le groupe gris-vert qui se détachait en dessous, qui se découperait en cavaliers distincts dans moins d'une minute. Des cavaliers avec des têtes de loup toutes d'en dehors, encadrés par des capuches vertes. Ils ne chevauchaient pas tant qu'ils fondaient sur la rivière.
« Non !» fit Roland. « Impossible ! Remets-toi à couvert !»
Eddie resta encore un peu là où il était, la main sur la crosse du gros revolver, le visage blême. Puis, sans un mot, il se détourna de Roland et attrapa Susanna par le bras. Il s'agenouilla à côté d'elle, puis se glissa dans le trou. Il n'y eut plus que Roland, le gros revolver posé bas sur sa hanche gauche, qui scrutait le sentier vide. 9. Benny Slightman était un gars bien bâti. Pourtant, il ne réussit pas à faire bouger le rocher qui retenait le pied de Frank Tavery. Jake le vit dès le premier essai. Son esprit froid, très froid, essaya de comparer le poids du garçon piégé à celui de la pierre. Pour lui, la pierre était plus lourde. « Francine !» Elle leva vers lui des yeux humides et légèrement voilés par le choc.
« Tu l'aimes ?»« Si fait, de tout mon cœur !»«
Il est ton cœur, » pensa Jake.
« Bien. Alors aide-nous. Quand je te le dirai, tire-le aussi fort que tu pourras. Peu importe s'il hurle, tire-le quand même !»
Elle opina de la tête comme si elle comprenait. Jake espéra que c'était le cas. Si on ne peut pas le sortir cette fois-ci, il faudra l'abandonner.
« Jamais !»
s'écria-t-elle. Ce n'était pas le moment de se battre. Jake rejoignit Benny à côté du rocher plat et blanc. Au-delà de son rebord déchiqueté, le tibia ensanglanté de Frank disparaissait dans le trou noir. Le garçon était à présent complètement conscient, et il suffoquait. Son œil gauche roulait de terreur, le droit était recouvert d'un voile de sang, un morceau de cuir chevelu lui pendait au-dessus de l'oreille.
« Tu vas soulever ce rocher et tu vas le tirer hors du trou !»
dit Jake à Francine.
« À trois ! Prête ?»
Lorsqu'elle acquiesça, sa chevelure lui tomba en rideau devant le visage. Elle ne fit pas mine de l'écarter et saisit son frère sous les aisselles.
« Francine, ne me fais pas de mal !»
gémit-il.
« La ferme !»
répliqua-t-elle.
« Hein ?» dit Jake. « Tu tires cette saloperie, Benny, même si ça t'arrache les couilles, tu m'as compris ?»« Mon salaud, compte, bon sang !»« Deux !»«
Trois !» ils tirèrent, l'effort leur arrachant des cris. Le rocher bougea. Francine tira son frère en arrière de toutes ses forces, tout en criant elle aussi. Mais ce fut le cri de Frank Tevery qui couvrit tous les autres au moment où son pied se libéra de l'étau. 10. Roland entendit des cris rauques couverts par un hurlement de martyr. Il s'était passé quelque chose là-bas et Jake avait agi. La question demeurait, est-ce que ça avait suffi à régler la situation? Les gouttelettes d'eau volèrent dans la lumière matinale lorsque les loups plongèrent en Hawaï et la traversèrent au galop sur leurs chevaux gris. À présent, Roland les voyait clairement, arrivant par vagues de 5 ou 6, donnant des éperons à leur monture. Il évalua leur nombre à 60. Sur l'autre rive, ils disparaissaient derrière un promontoire recouvert d'herbe. Puis ils réapparaîtraient 1 kilomètre plus loin, avant de disparaître une dernière fois derrière une ultime colline, tous s'ils restaient groupés comme ils l'étaient, et ce serait pour Jake la dernière chance de revenir et qu'ils se retrouvent tous à couvert. Il scruta le chemin, suppliant mentalement les enfants d'apparaître, suppliant Jake d'apparaître, mais le sentier demeura désert. Les loups remontaient à présent la rive ouest du fleuve, leurs chevaux faisant voler la poussière d'eau qui scintillait comme de l'or dans la lumière du soleil. Des mottes de terre et une pluie de sable volaient autour d'eux. Le martèlement des sabots n'était plus qu'un roulement de tonnerre fonçant sur eux.
11.
Jake prit une épaule et Benny l'autre. Ils traînèrent ainsi Frank sur le chemin, plongeant précipitamment en avant sans même prendre garde aux éboulements. Francine courait juste derrière eux. Ils prirent le dernier tournant et Jake eut un sursaut de bonheur en apercevant Roland dans le fossé d'en face. Roland, immobile, faisant le guet, sa main valide posée sur la crosse de son arme et son chapeau en arrière.
« C'est mon frère !» cria Francine dans sa direction. « Il est tombé! Il s'est coincé le pied dans un trou !»
Roland disparut soudain de leur champ de vision. Francine regarda autour d'elle, non pas effrayée, mais visiblement déroutée.
« Qu'est-ce que... Attends !»
dit Jake, car c'est tout ce qu'il trouva à répondre. Il était à court d'idées. Si c'était aussi le cas du pistolero, il mourrait sans doute ici.
Ma cheville, ça brûle, ça brûle !»
octa Frank Tevery.
« La ferme !»
répondit Jake. Benny éclata de rire. C'était un rire nerveux, mais un vrai rire. Jake se pencha derrière Frank Tevery, sanguinolent et sanglotant, et lui adressa un clin d'œil. Benny le lui rendit. Et, aussi simplement que ça, ils furent de nouveau amis. 12. Alors qu'elle était allongée dans la pénombre du trou avec Eddie à sa gauche et parmi l'odeur âcre des feuilles, Susanna ressentit soudain une crampe violente dans le ventre. Elle eut juste le temps de s'en rendre compte avant qu'un pic de douleur, sauvage et obscène, lui déchire le lobe gauche du cerveau, rendant insensible tout le visage et le cou de ce côté. Au même instant, l'image d'une salle de banquet gigantesque s'était imposée à son esprit, des rôtis et des steaks fumants, des poissons farcis, des magnums de champagne, des frégates remplies de sauce épaisse, des flots de vin rouge. Elle entendit le son d'un piano et une voix accompagnant la mélodie. La voix était chargée d'une insondable tristesse.
Quelqu'un m'a sauvé la vie ce soir, chantait-elle.
Non ! Cria Susanna à l'intention de cette force qui essayait de l'engloutir. Et cette force avait-elle un nom ? Bien sûr que oui. Son nom était Mère. Sa main était celle qui faisait balancer le berceau, et la main qui faisait balancer le berceau dirige « Non ! Tu dois me laisser terminer cette tâche. Après, si tu veux cet enfant, je t'aiderai à accoucher. Mais si tu essaies de m'y forcer maintenant, je te combattrai bec et ongles. Et s'il faut pour ça que j'en vienne à me faire tuer, et à en faire tuer ton précieux petit gars, je le ferai. Tu m'entends, espèce de garce ?»
Pendant un moment, il n'y eut rien d'autre que l'obscurité, le contact de la cuisse d'Eddie. L'insensibilité dans la partie gauche de son visage, le tonnerre des sabots qui grondaient, l'odeur âcre des feuilles et le bruit de la respiration des sœurs se préparant à leur propre bataille. Puis, articulant clairement chacune de ses paroles, surgit pour la première fois la voix de Mia, comme née d'un point situé au-dessus et derrière l'œil gauche de Susanna.
Mène ton combat. « Femme, je t'aiderai même si je le peux, et tu tiendras ta promesse. »«
Susanna, » murmura Eddie à côté d'elle, « tu vas bien ?»«
Oui. »
Et c'était le cas. Le pic s'était retiré de la blessure, la voix avait disparu, ainsi que cette terrible insensibilité. Mais aux aguets, tout près, Mia attendait. 13.
Roland était allongé sur le ventre dans le fossé, observant les loups, non pas avec ses yeux, mais avec son imagination et son intuition. Les loups étaient à présent entre le promontoire et la colline, chevauchant un bride abattu, leurs capes bouillonnant derrière eux. Ils disparaîtraient tous derrière la colline pendant quelques secondes, 7 tout au plus. Si, bien sûr, ils restaient groupés, et si les cavaliers de tête n'accéléraient pas la cadence. S'il avait évalué correctement leur vitesse. S'il avait raison, il disposerait de 5 secondes pour faire bouger Jack et les autres. Ou 7. S'il avait raison, il disposerait de ces mêmes 5 secondes pour traverser la route. S'il se trompait, ou si les autres traînaient, les loups verraient ou bien l'homme dans le fossé, ou bien les enfants sur la route, ou bien tout le monde. Ils seraient sans doute trop loin pour se servir de leurs armes, mais ça ne ferait pas une grande différence puisque leur ingénieuse embuscade tomberait à l'eau. Le plus intelligent serait de rester baissé et d'abandonner les enfants à leur sort.
Bon Dieu, 4 gamins piégés sur le chemin des Arroyos auraient pour effet de convaincre plus que jamais les loups que le reste des enfants s'était entassé plus loin, dans l'une des vieilles mines.
« Assez réfléchi, » lui dit Cort dans son esprit. « Si tu as l'intention de bouger, asticot, c'est ta seule chance. » Roland bondit sur ses pieds. Juste en face de lui, protégé par le tas de rochers qui marquait le point d'intersection du chemin des Arroyos et de la route de l'Est, se dressaient Jake et Benny Slightman, tenant le fils d'Avery chacun par un bras. Le gamin était couvert de sang. Les dieux seuls savaient ce qui lui était arrivé. Sa sœur regardait par-dessus son épaule. Dans cette position, il n'avait plus seulement l'air de jumeaux, mais de siamois, soudés par le corps. Roland se mit à secouer les mains au-dessus de sa tête comme essayant de prendre prise sur le vide.
« À moi ! Venez ! Venez !»
Et en même temps, il jeta un regard vers l'est. Aucun signe des loups.
Bien.
La colline les avait bel et bien dérobés à leur vue, au moins pour un temps. Jake et Benny traversèrent précipitamment la route, traînant toujours le garçon entre eux. Les bottillonnes de Frank Tavery creusaient des sillons frais dans Logan. Roland ne pouvait qu'espérer que les loups ne prêteraient pas d'attention particulière à ses marques. La fille vint en dernier, légère comme un farfadet.
« À plat ventre !»
rugit Roland en l'attrapant par l'épaule et en la plaquant au sol. À terre, à terre, à terre !»
Il atterrit à côté d'elle, et Jake atterrit lui-même par-dessus. Roland sentait le cœur trépidant du garçon battre entre ses omoplates, à travers leurs deux chemises, et l'espace d'une seconde, il savoura cette sensation. Le tonnerre des sabots revenait à présent, puissant et ronflant, s'amplifiant à chaque seconde. Les cavaliers de tête les avaient-ils vus? Impossible de le savoir. Mais bientôt, il saurait, inévitablement. En attendant, il ne pouvait que suivre le plan. Il serait difficile de rester très longtemps caché là, avec trois personnes en plus, et si les loups avaient vu Jake et les trois autres traverser la route, ils se retrouveraient tous piégés, sans même avoir eu le temps de dégainer ou de lancer un plat. Mais ce n'était pas le moment de s'en préoccuper. Il ne leur restait qu'une minute, tout au plus, estimait Roland. Peut-être même 40 secondes. Et ce tout petit morceau de temps fondait sur eux comme neige au soleil. « Descends de là et mets-toi à couvert » souffla-t-il à Jake. « Sur le champ !» Le poids s'envola. Jake glissa dans la cachette. « À toi, Frank Devry !» fit Roland. « Et pas de bruit !»« D'ici 2 minutes, tu pourras hurler tout en sous, mais pour l'instant, n'ouvre pas la bouche. Et ça vaut pour chacun d'entre vous. »
« Je vais me taire !» dit le garçon d'une voix rauque.
Benny et la sœur de Frank opinèrent du chef. « À un moment, nous allons nous lever et nous mettre à tirer, » dit Roland. « Vous trois, Frank, Francine et Benny, vous resterez baissés. À plat ventre !» Il marqua une pause. « Pour votre vie, restez en dehors de tout ça. » 14. Allongé dans l'obscurité et l'odeur de feuilles et de terre, Roland écoutait la respiration saccadée des enfants à sa gauche. Ce bruit fut rapidement couvert par le grondement croissant des sabots. Son imagination et son intuition se trouvèrent une nouvelle fois en alerte, plus actives que jamais. Dans 30 secondes, tout au plus, voire 15, la fureur rouge de la bataille balayerait toute conscience, hormis la perception la plus primitive. Mais pour l'instant, il voyait tout. Et tout ce qu'il voyait était conforme à ce qu'il souhaitait. Et d'ailleurs, quel intérêt avait-il à visualiser l'échec d'un plan? Il vit les jumeaux de la Cala allongés comme des cadavres au plus épais et au plus humide de la rizière, la boue s'insinuant à travers leurs chemises et leurs pantalons. Il vit les adultes non loin d'eux, quasiment à hauteur de la berge du fleuve. Il vit Sarah Adams avec ses plats et Ara des Mani, l'épouse de Cantab, avec quelques-uns des siens, car Ara lançait elle aussi, bien que, en tant que membre du clan Mani, elle ne pût établir de vraie complicité avec d'autres femmes. Il vit certains des hommes, Estrada, Anselm, Oberholzer, leurs bas en travers de la poitrine. Von Eisenhardt, quant à lui, ne portait pas de bas, mais la carabine que Roland avait nettoyée pour lui. Sur la route, déboulant de l'est, il vit les colonnes de cavaliers en cape verte sur leurs montures grises. Il ralentissait maintenant. Le soleil avait fini par se lever et miroitait sur le métal de leurs masques. Le plus ironique avec ces masques, c'est qu'il y avait plus de métal dessous que dessus. Roland laissa son imagination vagabonder, cherchant d'autres cavaliers. Une faction arrivant en ville par le sud, les prenant au dépourvu, par exemple. Il n'en vit aucune. Dans son esprit, du moins, l'intégralité de leurs troupes était là. Et s'ils avaient mordu à l'hameçon que leur avait si habilement tendu Roland et le quatet de 99, ils devraient tous être là. Il vit les boucas alignés sur la route côté ville, et il eut le temps de regretter de ne pas avoir détaché les bêtes de l'attelage, mais l'avantage était que l'effet d'ensemble était une impression de précipitation, ce qui n'était pas plus mal. Il vit le chemin qui menait aux Arroyos vers les mines, désaffectées ou encore en activité, et le dédale des grottes au-delà. Il vit les meneurs s'arrêter net, tirant sur la bouche de leur monture de leurs mains gantées, leur imprimant un rictus hargneux. Il vit à travers leurs yeux, vit des images non pas vivantes et empreintes de chaleur et de chair, mais froides comme celles des Magdazin. Il vit le petit chapeau que Francine avait laissé tomber. Son imagination percevait aussi les odeurs, l'arôme fade mais fécond des enfants. Une odeur riche et grasse, l'odeur de ce que les loups déroberaient aux enfants kidnappés. Son esprit percevait enfin les sons, et il entendait, faiblement, les mêmes déclics et les mêmes bruits métalliques que ceux qui émanaient d'Andy, le même gémissement grave des relais, des servomoteurs, des pompes hydrauliques et de Dieu seul savait quels autres mécanismes. En esprit, il voyait les loups commencer par inspecter l'entrelac confus de traces sur la route. Il espérait en tout cas qu'ils y verraient de la confusion, puis remonter du regard le chemin des Alruios. Parce que les imaginer en train de regarder dans la direction opposée, vers Eudis, dans leur trou comme des poulets dans la marmite, ne lui était d'aucun secours. Non, il regardait vers les mines. Il le fallait. Il sentait les enfants. Il sentait peut-être leur peur autant que cette matière puissante enfouie dans leur cerveau, et voyait les petits objets, les petits trésors que leur proie avait laissés derrière elle. Il les voyait en selle sur leurs chevaux mécaniques, en attente. « Allez-y !» les exhorta silencieusement Roland. Il sentit Jake remuer légèrement près de lui, sentit qu'il entendait ses pensées, ses prières, pour ainsi dire. « Allez-y, suivez-les, prenez ce que vous voudrez !» Un claque tonitruant résonna, émis par l'un des loups, suivi d'un bref hurlement de sirène. Puis vint le gazouillis désagréable que Jake avait entendu au Dogan. Ce n'est qu'après que les loups se remirent en mouvement. Il entendit d'abord le martèlement assourdi des sabots sur Logan, puis sur le sol pierreux du sentier de l'Arroyo. Et ce fut tout. Ces chevaux-là ne poussaient pas de hennissements nerveux comme ceux encore attelés au bouca. Pour Roland, ce fut suffisant. Ils avaient mordu à l'hameçon. Il glissa son revolver hors de son étui. À côté de lui, Jake bougea de nouveau. Et Roland en déduisit qu'il faisait de même. Il les avait prévenus de la configuration à laquelle s'attendre quand ils bondiraient de leur trou. Environ un quart des loups d'un côté du chemin tournaient vers la rivière et un autre quart vers Calabrian Sturges. Ou peut-être un peu plus, puisque s'il devait y avoir des problèmes, ce serait de la ville que les loups ou ceux qui les avaient programmés s'attendraient à les voir venir. Et le reste? Une trentaine, voire plus? Il remontrait déjà le chemin. Piégé, si fait. Roland commença à compter jusqu'à 20, mais en arrivant à 19, il décida que c'était assez. Il replia les jambes sous lui, pas de signe d'arthrite, pas même un élancement. Puis il se propulsa en l'air, brandissant l'arme de son père.
« Pour Gilead et la Cala !»
rugit-il.
« Maintenant, pistoleros !» « Maintenant, sœur Doritza! Maintenant! Maintenant! Tuez-les! Tuez-les tous !»
15. Ils surgirent de la terre comme des diables de leur boîte. Les planches volèrent de part et d'autre dans un tourbillon d'herbes et de feuilles. Eddie et Roland tenaient chacun un revolver à crosse de bois de santal. Jake brandissait le Ruger de son père. Margaret, Rosa et Zalia avaient chacune un Ritza. Susanna en avait pris deux, se tenant les bras croisés sur la poitrine comme si elle avait froid. Les loups étaient déployés exactement comme Roland l'avait prédit dans son imagination froide et meurtrière. Et il ressentit un moment de triomphe avant que toute pensée ou émotion secondaire ne soit voilée par le rideau rouge. Comme toujours, il n'était jamais aussi heureux d'être en vie qu'en se préparant à mourir vraiment. 5 minutes de sang, de douleur et de stupidité, leur avait-il dit. Et voilà qu'ils y étaient. Il leur avait aussi dit qu'il en était toujours malade, juste après. Et bien que ce fût vrai, il ne se sentait jamais aussi bien qu'au moment du commencement. Il ne se sentait jamais aussi complètement et authentiquement lui-même. C'était la traîne du vieux nuage de la gloire. Peu importait que ce fussent des robots, aucune importance, grand Dieu ! L'important, c'est qu'il s'en prenait depuis des générations à des êtres sans défense, et que cette fois, il serait pris complètement par surprise.
« Le haut de la capuche !»
hurla Eddie, tandis que dans sa main droite, le pistolet de Roland crachait le feu et la foudre. Les chevaux et les mules des boucards reculèrent dans leurs brancards. Quelques-uns poussèrent un cri de surprise.
« Le haut de la capuche ! Visez les bonnets de pensée !»
Comme pour démontrer le bien fondé de ces conseils, les capuches vertes de 3 des loups basculèrent en arrière comme tirées par des doigts invisibles. Les trois créatures tombèrent de leur selle et s'écrasèrent au sol comme désarticulées. Dans le récit que leur avait fait le grand-père, après que Molly Doolin avait tué le loup, la bête avait été longuement secouée de soubresauts. Mais ces trois-là gisaient sous les sabots de leurs chevaux qui caracolaient, immobiles comme des pierres. Molly n'avait peut-être pas touché le bonnet de pensée proprement dit, mais Eddie savait ce qu'il visait, lui, et il venait de le prouver. Roland se mit à tirer, lui aussi, tirant à hauteur de la hanche, presque distraitement. Pourtant, chaque balle faisait mouche. Il visait le groupe sur le chemin. Il voulait empiler les cadavres, en faire une barricade s'il le pouvait.
« Rosa ! Ritsa ! Vol et frappe !»
cria Rosalita Munoz. Le plat quitta sa main et fila en travers de la route de l'Est avec un sifflement implacable. Il frappa de plein fouet la capuche d'un cavalier au bout du chemin et qui essayait désespérément de faire demi-tour à son cheval. La chose bascula en arrière, les pieds en l'air, et atterrit à l'envers sur la route.
« Ritsa !»
lança la voix de Margaret Eisenhart.
« Pour mon frère !» cria Zalia. « C'est Dame Ritsa qui vient vous botter le cul, bande de salauds !»
Susanna décroisa les bras et lança les deux plats devant elle. Ils s'envolèrent en hurlant, se croisèrent à mi-hauteur et allèrent tout droit au but. Des lambeaux de tissu vert volèrent, les loups auxquels ils avaient appartenu tombèrent comme des masses. Des zébrures de feu scintillaient dans la lumière du matin, tandis que les cavaliers se débattaient et se bousculaient de chaque côté du chemin, dégainant leurs armes. Jake fit sauter le bonnet de pensée du premier à brandir sa lumitrique, lequel bascula contre son sabre électrique et mit le feu à sa cape. Son cheval se cabra sur le côté dans la ligne de mire de la lumitrique. Sa tête se détacha, révélant un fouillis de câbles et d'étincelles. Les sirènes se mirent à brailler comme des alarmes au milieu de l'enfer. Roland s'était attendu à ce que les loups les plus proches de la ville essaient de leur fausser compagnie pour se réfugier dans la cala. Mais les neuf créatures restantes, Eddie en avait abattu six, une pour chacun de ses premiers coups de feu, passèrent en flèche devant les boucas, fonçant droit sur eux. Deux ou trois d'entre elles lancèrent des boules argentées qui piquèrent sur eux en vrombissant.
« Eddie ! Jake ! Des vifs d'argent ! À droite !»
Ils plongèrent immédiatement dans cette direction, laissant derrière eux les femmes qui lançaient les plats aussi vite qu'elles parvenaient à les extirper de leurs sacs doublés de soie. Jake se tenait debout, les jambes écartées, le rugger dans sa main droite tendue, se tenant le poignet droit de la main gauche. Le vent lui tirait les cheveux en arrière, les yeux grands ouverts, le sourire aux lèvres. Il était beau. Il tira trois coups rapides qui claquèrent dans l'air comme des coups de fouet. Il se rappelait vaguement ce jour où il avait fait du tir au pigeon d'argile dans les bois. À présent, il tirait sur quelque chose de bien plus dangereux et il en était heureux. Heureux! Les trois premières boules volantes explosèrent dans des éclairs de lumière bleuâtre. Une quatrième zigzaga, puis le prit pour cible. Jake se jeta sur le côté et entendit la boule passer juste au-dessus de sa tête, bourdonnant comme un grippin détraqué. Il savait qu'il allait faire demi-tour et revenir. Mais Susanna le prit de court. Elle fit volte-face et lança un plat. Le plat fila en mugissant. En atteignant sa cible, il explosa en même temps que le vif d'argent. Des éclats bouillants tombèrent en pluie dans les plants de maïs, en enflammant certains. Roland rechargea, le canon fumant de son revolver momentanément pointé entre ses pieds. Derrière Jake, Eddie faisait de même. Un loup sauta par-dessus le tas de corps entrelacés en haut du chemin, sa cape verte flottant derrière lui, et l'un des plats de Rosa vint déchirer sa capuche, faisant apparaître le radar qu'elle dissimulait. Les bonnets de pensée des serviteurs de l'ours tournaient lentement et de manière saccadée. Celui-là tourbillonnait si vite qu'on n'en voyait plus qu'un contour métallique flou. Puis il disparut et le loup bascula sur le côté, sur les chevaux de l'attelage d'Overholzer. Les chevaux firent un écart et reculèrent, allant percuter le bouca de derrière, écrasant entre les deux chariots les quatre chevaux hennissant de douleur. Ils essayèrent de se dégager, mais n'avaient nulle part où aller. Le bouca d'Overholzer vacilla, puis se retourna. Le cheval du loup abattu regagna la route, trébucha sur le cadavre d'un autre loup et s'effondra dans la poussière, un de ses membres tordu en un angle contre nature. L'esprit de Roland était ailleurs. Son œil voyait tout. Il avait rechargé. Les loups qui avaient remonté le chemin étaient acculés derrière un mur de cadavres, comme il l'avait espéré. Le groupe de 15 du côté de la ville avait été décimé. Il n'en restait que 2. Ceux de droite essayaient de contourner le fossé par son extrémité, où 3 des sœurs d'Olitsa ainsi que Susanna s'étaient positionnées. Roland abandonna les 2 loups restants à Eddie et à Jake, s'élança ventre à terre le long de la tranchée, derrière Susanna, et fit feu sur les 10 loups qui fonçaient sur elle. L'un d'eux brandit un vif d'argent sur le point de lancer, puis le lâcha au moment où la balle de Roland fit sauter son bonnet de pansée. Rosa en abattit un autre, Margaret Eisenhart un 3e. Margaret se baissa pour prendre un autre plat, et lorsqu'elle se redressa, une lumitrique lui arracha la tête, enflammant sa chevelure tandis qu'elle roulait dans le fossé. Et Benny eut une réaction incompréhensible. Cette femme avait été pour lui une seconde mère. Lorsque la tête en flamme atterrit près de lui, il la repoussa d'un coup de pied et rampa hors du fossé, aveuglé par la panique et braillant de terreur.
« Benny, non, reviens !»
s'écria Jake. 2 des loups qui restaient lancèrent leur boule de mort sur le garçon rampant et hurlant. Jake en abattit une au vol. Il n'eut pas l'occasion d'atteindre l'autre. Elle percuta Benny Slightman en pleine poitrine et le garçon explosa tout bonnement vers l'extérieur, un de ses bras se détachant de son corps pour atterrir dans la poussière, la paume de la main tournée vers le ciel. Susanna faucha le bonnet de pansée du loup qui avait tué Margaret, puis extermina de même le meurtrier de l'ami de Jake. Elle sortit 2 nouveaux Rizza de ses sacoches et se retourna pour faire face au loup alors que le premier venait de sauter dans le fossé, son cheval renversant Roland de la poitrine. Le loup brandit sa lumitrique en direction du pistolero. Ce que Susanna vit dans sa main ressemblait à un tube au néon d'un rouge-orange brillant.
« Tu rêves, enfoiré !»
hurla-t-elle en lançant le plat dans sa main droite. Il trancha le sabre étincelant en son milieu, le faisant exploser à hauteur du manche, arrachant du même coup le bras du loup. Au même instant, un des plats de Rosa vint faire sauter le bonnet de pensée et la créature bascula sur le côté. Elle s'écrasa sur le sol, son masque miroitant adressant aux jumeaux Tavery pétrifiés et enlacé son horrible rictus. Puis il se mit à fumer et à fondre sur le sol. Hurlant le nom de Benny, Jake traversa la route de l'Est, rechargeant le Rugger tout en marchant, marchant sans s'en rendre compte dans le sang de son ami mort. À sa gauche, Roland, Susanna et Rosa étaient en train de régler leur compte aux 5 derniers loups qui avaient constitué l'aile nord du bataillon. Les monstres faisaient tourner leurs chevaux en cercle vain et saccadé, ne sachant visiblement quoi faire dans de telles circonstances.
« Tu veux de la compagnie, fiston ?» demanda Eddie à Jake.
À leur droite, le groupe de loups qui s'était positionné sur le chemin côté ville gisait tous à terre, morts. Seul l'un d'entre eux avait réussi à atteindre le fossé. Celui-là reposait la tête plantée dans la terre fraîchement retournée du trou et son pied botté en travers de la route. Le reste de son corps était enveloppé dans sa cape verte. Il avait l'air d'un insecte mort dans son cocon.
« Bien sûr !»
répondit Jake. Parlait-il à voix haute ou en pensée ? Il n'en savait rien. Les sirènes lui vrillaient les tympans.
« Tout ce que tu voudras, ils ont tué Benny !»« Je sais, ça craint !»«
Ça aurait dû être son salopard de père !»
fit Jake. Pleurait-il ? Il n'en savait rien.
« Je suis d'accord !» « Tiens, un cadeau !»
Dans la paume de Jake, Eddie lâcha 2 boules d'environ 10 cm de diamètre. Leur surface ressemblait à de l'acier, mais lorsque Jake les serra dans sa main, il sentit leur enveloppe s'enfoncer comme un jouet en caoutchouc très dur. Sur le côté, il découvrit une petite plaque. Vif d'argent, modèle Harry Potter, numéro de série, hashtag 465-11-AA-HPJKR. Attention, explosif. À gauche de la plaque, il trouva un bouton. Dans un coin de sa tête, Jake se demanda qui pouvait bien être ce Harry Potter. L'inventeur du vif argent, sans doute. Ils atteignirent le tas de cadavres au bout du chemin. Peut-être les machines ne pouvaient-elles vraiment mourir. Pourtant, Jake les considérait bel et bien comme mortes, entassées et entremêlées comme elles l'étaient. Mortes, oui. Et il en était furieusement heureux. Il y eut une explosion derrière eux, suivie d'un hurlement de douleur ou de plaisir extrême. Peu importait à Jake pour l'instant, il concentrait toute son attention sur les loups piégés sur le chemin. Il en restait entre 18 et 2 douzaines. L'un des loups se tenait en avant, brandissant sa lumitrique crépitante. Il était à demi tourné vers ses comparses, agitant son arme en direction de la route. « Sauf que c'est pas une lumitrique, » constata Eddie. « C'est un sabre laser, comme dans la guerre des étoiles. À part que ces sabres laser-là ne sont pas des effets spéciaux, ils tuent vraiment. Qu'est-ce qui se passe ici, bon Dieu ?» Eh bien, le type en tête essayait de rallier ses troupes. Jusque-là, c'était clair. Eddie décida de couper court au sermon. Il appuya sur le bouton d'un des trois vifs d'argent qu'il avait gardé pour lui. La boule se mit à ronronner et à vibrer dans sa main. Il avait l'impression de tenir un vibromasseur.
« Hey ! Rayon de soleil !» appela-t-il.
Le loup de tête ne regarda pas dans sa direction. Aussi Eddie se contenta-t-il de lancer le vif d'argent droit sur lui. Il l'avait envoyé en chandelle. Aussi aurait-il dû heurter le sol à 20 ou 30 mètres du groupe de loups et rouler par terre. Au lieu de quoi, il prit de la vitesse et tua le loup net en lui fracassant la bouche. La chose explosa, ne laissant plus rien au-dessus du cou.
« Allez-y, dit-il, venez y goûter, utilisez leur propre merde contre eux, c'est un vrai plaisir. »
Ne tenant pas compte de lui, Jake laissa tomber les vifs d'argent qu'Eddie lui avait donnés, trébucha sur le tas de cadavres et commença à remonter le chemin.
« Jake ! Jake ! Je crois pas que ce soit une si bonne idée !»
Une main agrippa Eddie par le bras. Il fit volte-face, brandissant son arme, puis la baissant en reconnaissant Roland. « Il ne t'entend pas, » dit le pistolero. « Viens, on va le couvrir. »«
Attends, Roland, attends !»
C'était Rosa. Elle était couverte de sang, sans doute celui de la pauvre Cy Eisenhart, pensa Eddie. Il ne vit aucune blessure sur Rosa elle-même.
« Je veux en être !» dit-elle.